VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, retour au calme de la capitale après les combats aujourd'hui entre les forces de sécurité et des éléments armés identifiés comme appartenant à l'ex-rébellion ninja du pasteur Tatan Toumi. Les assaillants ont attaqué tôt ce matin des commissariats de police et brûlé plusieurs bâtiments publics dans les quartiers sud de Brazzaville, généralement acquis à l'opposition. D'après notre correspondant à Brazza, les populations du secteur fuient vers les zones nord de la capitale plus calmes. Le film des événements avec Eric Manirakiza.
Le commissariat central de la police de l'Angola libre à Bakongo, les commissariats de Makelekele et de Mayanga ont été mis à sac avant d'être incendiés. Selon des habitants, des miliciens ninjas ont infiltré le quartier de Mayanga depuis 1h du matin. Ils sont à la recherche des policiers, a indiqué un habitant du quartier bourreau à Makelekele. Contacté, un responsable politique de la milice ninja a indiqué à VOA Afrique que c'était leur façon à eux de manifester la désobéissance à l'État. Il a promis d'autres incidents dans le pays. Apeurés par des détonations d'armes automatiques et lourdes, les populations fuient vers les zones centre et nord de la capitale, encore calmes. Il y a quelques heures, des coups de feu étaient également entendus dans les quartiers Masengo et Manianga dans la partie nord. Pour l'heure, aucun bilan n'est encore fourni par les autorités. Dans l'ensemble, Brazzaville est calme, le centre-ville désert et seuls les véhicules militaires circulent. Les populations sont chez elles.
En Guinée équatoriale, le président sortant Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 1979, affrontera 6 candidats à l'élection présidentielle du 24 avril en l'absence des principaux partis d'opposition. Obiang-Nguema, à la tête d'une coalition de 10 partis dont le Parti démocratique de Guinée équatoriale PGDE au pouvoir, est quasiment assuré de remporter cette élection. Ses adversaires sont pour certains des nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national. Nigeria, sérieux revers pour le groupe terroriste Ansaru, une branche dissidente de Boko Haram qui s'est alliée à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'armée nigériane a annoncé hier l'arrestation de son leader Khalid al-Barnawi. Chérubien Dorsil nous en dit plus.
C'est en effet une lourde perte pour Ansaru. Khalid al-Bardawi, 47 ans, figurait depuis 2012 parmi 3 Nigérians sur la liste du département d'État énumérant les terroristes internationaux les plus recherchés. Les 2 autres sont le fondateur d'Ansaru, Aboubakar Adam Kambar, mort dans un raid à Kano en mars 2012, et le chef de Boko Haram, lui-même, Aboubakar Shekau, dont la situation est inconnue, des vidéos annonçant et démentant récemment qu'il serait prêt de mourir. Selon Rabé Aboubakar, porte-parole de l'armée nigériane, l'arrestation de Khalid al-Barnawi, intervenu vendredi dans le centre du Nigeria, représente une avancée dans la lutte contre le terrorisme. De son vrai nom, Ousmane Oumar Aboubakar, al-Barnawi est originaire de la ville de Biou, dans l'état septentrional de Borno. Il a reçu des entraînements en Afghanistan et en Algérie et a pris la tête d'Ansaru après la mort de son fondateur. Le gouvernement nigérian s'est félicité de la nouvelle de sa capture.
La lutte contre Boko Haram au Tchad maintenant, dans le secteur tchadien du lac Tchad. L'état d'urgence a été décrété depuis plusieurs mois et en raison des attaques meurtrières du groupe islamiste, les habitants ont mis en place des comités de vigilance. C'est le cas par exemple dans la ville de Bagassola, où s'est rendu notre envoyé spécial Bagassikoura. Son reportage.
Nous sommes ici au marché hebdomadaire de Bagassola. Ce samedi, vendeurs, acheteurs et habitants de la région ont convergé en masse ici. Pourtant, il y a seulement 5 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans 3 explosions kamikazes simultanées.
Il était 15h30 quand le premier détonnement s'est fait entendre.
Lui, c'est Dimouya Souapébé, le préfet du département de Kaya, chef-lieu Bagassola.
Bagassola n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué par Boko Haram.
Au centre du marché, des restes de hangars calcinés, signes de la puissance des bombes artisanales. À ce jour, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram sur le sol tchadien. On écoute le préfet de Bagassola, Dimouya Souapébé.
Nous avions eu sur le coup 43 morts, nets, y compris les kamikazes. 43 morts, 58 blessés.
Situé à quelques 200 km des frontières du Niger et du Nigeria, épicentre du groupe Boko Haram, Bagassola a depuis pris des mesures drastiques pour se protéger. Des groupes d'autodéfense ont été constitués pour avoir accès au marché. Il faut désormais montrer patte blanche aux membres du comité de vigilance. Dans cette bourgade sous un soleil de plomb, ils procèdent à des fouilles corporelles à l'aide de détecteurs de métaux.
On fouille tout le monde. Si ton frère même, s'il est dehors, tu vas le fouiller.
Hassan Ahmad Mahamat est le président du comité de vigilance.
On commence à 6h30 à 18h. On a fait 6 mois ou 7 mois, on est ici. Matin, soir, on est là. Mais on a rien trouvé, mais on a soutenu, on a fait défendre notre pays, seulement notre village.
Selon le préfet Dimouya Soapébé, ce même dispositif existe dans tous les villages de sa circonscription.
Ce comité de vigilance, vous partez aujourd'hui dans tous les villages, quelle que soit la taille de ce village. Vous partez dans toutes les villes du département de Kaya. Vous y trouverez des hommes armés, pas en fusil. Nos populations n'ont pas de fusil. Mais ils s'arment en armes blanches. Ils sont devenus très vigilants, comme indique leur nom. Et ce sont ceux-là, aux côtés de nos forces de défense, ont fait, à l'heure où je vous parle, que nous espérions quand même que la sécurité est en train de revenir.
La région du lac est hautement militarisée. Sous la menace de Boko Haram, l'armée continue son redéploiement dans cette région placée sous état d'urgence depuis novembre 2015. À Bagassola, dans l'ouest du Tchad, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le bras de fer entre la Maison-Blanche et le Sénat américain sur la nomination du 9e juge de la Cour suprême devrait dominer l'actualité au Congrès cette semaine, alors que les sénateurs regagnent la capitale après 2 semaines de congé. Le point avec Lionel Gaïma.
Le Congrès était en vacances la semaine dernière, mais 3 sénateurs sont venus à Washington pour s'entretenir avec le juge Merrick Garland, nommé par le président Barack Obama pour remplacer Antonin Scalia, l'un des membres conservateurs de la Cour, décédé. Pour la première fois, un républicain a accepté de rencontrer le candidat. Le sénateur Mark Kirk a dit que le juge Garland ayant été nommé par le président, nous devrions nous prononcer sur son cas. Il nous faut considérer le processus constitutionnel de manière rationnelle, adulte, avec un esprit ouvert. Plus d'une douzaine d'autres républicains ont affirmé leur volonté de rencontrer le juge Garland, mais seulement 2 ont exhorté le Sénat de se prononcer sur sa nomination. Un 3e, Jerry Moran, a dans un premier temps appelé la tenue d'audience, mais il a changé d'avis 2 jours plus tard. Entre-temps, les démocrates restent unis en faveur du juge Merrick Garland. Il est quelqu'un de très qualifié et je pense que le Sénat a pour obligation non seulement de tenir des audiences, mais aussi de voter sur sa nomination à la Cour suprême, a dit la sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand. Cependant, les républicains ont la majorité au Sénat et de ce fait contrôlent l'agenda. Le leader de la majorité, Mitch McConnell. Laissons le peuple américain décider. Le Sénat se penchera sur la question de manière appropriée quand il aura à considérer le choix du prochain président, quel qu'il soit. Actuellement, la Cour est divisée entre autres progressistes et 4 conservateurs pour le candidat républicain Ted Cruz. Si Hillary Clinton est élue président des États-Unis, la Cour suprême est perdue pour une génération et c'est en fait de la Déclaration des droits du citoyen, dit le sénateur du Texas. La plupart des sondages montrent un appui de la majorité des Américains pour un vote au Sénat sur la nomination du juge Merrick Garland avant les élections.
Et pour terminer, les secrets des paradis fiscaux dévoilés par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation couvrant la période 1979 à 2005. Jean-Roger Bion.
Hommes politiques, footballeurs, au moins 140 personnalités de premier plan sont épinglées. Parmi elles, des collaborateurs de premier plan du président russe Vladimir Poutine. Selon cette enquête, des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l'influence occulte auprès des médias et de l'industrie automobile russe. L'argent détourné atteindrait 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écrans. D'autres figures politiques visées par l'enquête, la famille du président chinois Xi Jinping, le président ukrainien Petro Poroshenko, le premier ministre irlandais soupçonné d'avoir dissimulé des millions de dollars. Ce n'est pas tout. Le monde du football, déjà ébranlé ces derniers mois par plusieurs scandales touchant les dirigeants de la FIFA, n'est pas épargné. Les icônes Michel Platini et Lionel Messi figurent sur la liste. Ce plus grand coup jamais porté aux paradis fiscaux a documenté plus de 214 000 entités offshore impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.
Merci Jean-Roger Bion. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.